Vous écoutez France Culture.
François Stressart et la bande des Papous du dimanche pour la première partie d'une émission enregistrée en public. C'était le 9 février dernier. Nous étions au Quartz de Brest pour le festival Longueur d'onde. La salle était comble, trop petite pour tous ceux qui s'étaient déplacés pour nous écouter et nous voir. Merci à tous de votre ardeur joyeuse. Heureusement, vous pouvez télécharger cette soirée brestoise, la télécharger en deux dimanches pendant un an et regarder les photos sur le site des Papous. Nous avons donc passé 3 heures à jouer sur la scène du Quartz pour fêter les 10 ans de Longueur d'onde, le festival de radio. Première partie aujourd'hui où il sera question de mer, de radio et de philo. Avec moi, Dominique Muller, Patrice Caumont, Jacques Jouet, Eva Almassy, Patrick Beignet, Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy et Serge Joncourt. Prêt à toutes les contraintes littéraires, dont certaines improvisées par les uns et les autres durant leur moment de liberté. Au cours de la soirée, quand ils ne parlaient pas, ils écrivaient. On ouvre ce numéro spécial des Papous dans la tête au Quartz de Brest pour le festival Longueur d'onde avec un hommage à la mer, gloire à la mer, mer, M-E-R, au port, à Brest. 8 hommages, l'hommage toujours recommencé. Il commence par Patrick Beignet.
Oui, c'est un hommage un peu énervé quand même.
Ah bon ?
Plutôt une invective à la mer. Ne sais-tu où tu veux aller, mer aboulique ? Tu montes, tu descends comme un ascenseur fou. Cesse enfin de trembler comme un vieil alcoolique et grimpe plutôt jusqu'à Châteauneuf-du-Fou.
Dominique Muller, c'est à vous.
Comment ça ? Il pleut souvent à Brest, quel mensonge ! Le ciel épouse l'océan et vite éponge une goutte de pluie qui dans la rade plonge. Quoi, des nuages ? Ils sont de l'horizon le songe.
Oh, c'est joli. Ah. Oh, bon. Jean-Bernard Pouy.
La mer n'est pas si loin, si céleste, immodeste, et vient sentir son parfum presque agreste, m'a dit ma camarade sur un ton un peu leste, et Brest encore un peu chéri, fais un beau geste.
C'est au tour d'Eva Almassy.
J'ai rêvé que je suis née à Budapest. Parlez-moi de la mer qui toujours commence. Tous ces beaux bateaux, les eaux qui baignent les côtes de France. Le vent, les voiles, les flots, les vagues qui vont et qui reviennent. Je vous amène.
Jacques Jouet, vous chantez vous aussi ?
Ah non, non, pas tout de suite. Je préfère attendre un petit peu.
Ouais.
Pourquoi la mer est-elle salée ? Ah, si la mer était sucrée, les algues alors seraient des mûres, comme on ferait des confitures.
Ah, c'est fini ! C'est vrai que dans un quatrain, il y a 4 vers en principe.
En général.
Voilà. Serge Joncourt, vous en avez fait 4 ou plus ?
4, oui. Ô mer, mer, vaste étendue d'eau à jamais remplie, que de vers splendides sur toi n'a-t-on écrit ? Et si j'ajoute moi-même cette fine élégie, c'est pour baisser le niveau, pas de l'eau, mais du génie.
On aurait dit Mounet Sully, au moins. Odile Conseil.
Charles traînait, peinait, en panne d'inspiration,
sur les vers qu'il devait, pour l'inauguration du grand hôtel des flots, écrire sur la mer. Il séchait, divaguait, tout allait de travers. La mer qu'on doit pas boire, car elle est trop salée.
Non.
La mer qu'on croit tranquille, mais qui peut s'agiter. La mer qu'on voit mugir, parfois comme une lionne. La mer qu'on voit penser le long des « j'abandonne ».
Et enfin, Patrice Comont, et je crois que lui, il chante.
Il essaye, oui.
Il essaye sur un air connu.
Ah oui, c'est une des premières chansons de Brel.
Oui.
Quand on n'a que la mer pour partir en voyage et que du bastingage vomit toute la croisière. Quand on n'a que la mer du matin jusqu'au soir, toute la mer à boire, sans un bar, sans un verre. Quand on n'a que la brume pour toute saison, pour toute maison de crachin et d'écume. Quand on n'a que la rade pour seule promenade, un canon c'est l'éclair et de Brest le tonnerre.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on fonctionne au Papou dans la tête, que ce soit en studio à Paris ou lors des émissions publiques. Il y a toujours des jeux qui ont été écrits tranquillement à la maison, selon des contraintes imposées, évidemment. Et puis ceux qui sont écrits sur place, alors en public, c'est toujours un peu plus périlleux et difficile. C'est un challenge que relèvent les écrivains Papou. Et le premier de ces jeux va concerner Patrice Comont et Patrick Beignet. Il s'agit pour chacun d'entre eux de rédiger une sorte de dissertation philosophique, mais une dissertation philosophique papou qui laisserait davantage de place à l'imagination. C'est-à-dire que leurs dissertations philosophiques vont s'appuyer sur une citation dont leur examinateur ne leur donnera que deux mots. Et à partir de ces deux mots, eh bien, ils devront improviser, imaginer la citation et puis traiter le sujet. Alors, le premier candidat, c'est Patrick Beignet, et son sujet est proposé par Jacques Jouet. On écoute le sujet, Jacques Jouet.
Le sujet est le suivant. Comme le dit Louis Althusser dans sa somme inédite « Bergson ne m'aime », nanana nanana prédilection, nanana nanana banc public, nanana nanana. À la lueur de vos expériences personnelles, sans vous étaler cependant de façon trop intime, vous vous demanderez dans quelle mesure il est possible d'affirmer le primat du comique en situation de servitude involontaire.
C'est un très beau sujet.
Hein?
C'est porteur. Alors, Patrick Beignet, vous avez le droit de poser une question.
Je n'ai pas le droit de refuser le sujet.
Non, ce n'est pas prévu, mais on peut en discuter.
Non, je ne vois pas quelle question poser.
Ça, les deux mots, donc les deux mots prédilection et...
Les bancs publics.
Bancs publics,
c'est pas bain public, ce serait plus amusant.
Ah.
Non, j'ai dit bancs publics.
Ah, oui.
Si vous commencez à critiquer l'examinateur, ça va mal se passer. Bien, écoutez, vous prenez votre sujet, vous allez travailler derrière nous. Vous avez des casques pour vous isoler un petit peu du bruit ambiant. Et on va maintenant attribuer son sujet à Patrice Comont. Et c'est Dominique Muller qui lui a tricoté un bon petit sujet de philo. Est-ce que ce serait niveau bac ou un peu plus haut?
Oh, bien plus haut. On connaît Patrice Comont. Enfin, voyons. Oui. Ah oui, bien, bien plus haut.
Oui, alors accrochons-nous.
Alors, tartelette, synecdoque, ouais. Affirme Kierkegaard en introduction à « La gueule du loup », essai inachevé sur l'œuvre de Schopenhauer. En vous fondant sur cette interprétation critique, vous discuterez la pertinence de l'insulte en tant que début de la civilisation. Alors je précise pour mes camarades, certains de mes camarades, pas pour Patrice, ce qu'est une synecdoque.
C'est gentil, oui. Oh, peut-être même pour lui, attendu, non.
Pas Patrice, je disais bien, mais non, pas pour vous, voyons. Alors la synecdoque consiste à remplacer un concept par un terme en relation avec lui et en rapport en généralement avec l'étendue ou la grandeur. Je vous donne un exemple, c'est boire un petit verre qui sous-entend d'une part qu'on va picoler, autre chose que le verre lui-même, mais sans rentrer fin sous. Voilà.
Pour faire plus simple, c'est une simple métonymie où on prend le tout pour la partie ou la partie pour le tout.
Oui, mais avec une notion de grandeur, ça je vous aide pour votre sujet.
La partie pour le tout, le tout pour la partie, c'est pas une notion de
grandeur. Lequel d'entre vous est le professeur ?
Oui, j'allais dire, ne commencez pas à pinailler avant d'avoir travaillé le sujet, parce que la note va s'en ressentir.
Et c'est quoi la tartelette ?
C'est une synecdoque d'une pâtisserie plus importante.
C'est une miette philosophique.
Exactement.
Chez Kierkegaard.
Exactement.
Vous allez travailler le sujet, vous aurez un petit peu de temps, pas trop. À tout à l'heure. Les papous dans la tête de France Culture au Quartz de Brest pour les 10 ans du festival Longueur d'onde. Longueur d'onde, le grand festival de la radio. Jacques Jouet nous propose une balade chronique du côté de chez Signe. Alors, il ne sera pas question des signes du zodiaque, pas de Capricorne, pas de Lion, pas de Balance, ni de Sagittaire. Il ne sera pas question des signes chinois, pas de Dragon, pas de Cochon, mais il va être question de signes nouveaux. Ils existent, mais peu de gens le savent. Par exemple, savez-vous qu'il y a des gens qui sont mobilettes, ascendant bémol ? Il y en a dans la salle, je suis sûre qu'il y en a. Ils ne le savent pas, mais il y en a. Et d'autres qui sont, je ne sais pas moi, rideau, ascendant tabouret, par exemple. Et ça vous pose un destin, comme disait Alphonse Allais, il disait, ça vous pose un destin comme deux garennes vous posent un lapin. Alors je me tourne vers Jacques Jouet, je lui ai demandé de nous dégoter un nouveau signe spécialement pour aujourd'hui. Et bien sûr, à partir du moment où vous saurez que vous êtes de ce signe, eh bien, il vous fera part des prévisions de la semaine à venir, amour, santé, etc. Alors, c'est quoi ce signe, Jacques Jouet ?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont nés sous ce signe,
oui. Mais
ils ne le savent peut-être pas encore. C'est le signe radio.
Ah, il y a des radios dans la salle ? On ne va pas plus ?
Ah oui, il y avait une très belle rumeur. Vous savez.
C'était joli, mais les gens ne savaient pas encore très bien. D'abord, à quel moment on est quand on est radio ? Vous allez nous le dire ?
Oh, je vais vous dire ça.
Oui.
Tout individu né sous le signe de la radio. Alors, on dit un radio ou une radio, est né dans un chou. Ce qui ne veut pas dire du tout que les radios ne soient que des garçons. Hein, pas du tout. Les radios sont nées dans un chou entre avril et décembre et en ont gardé deux feuilles qu'ils portent très décollées sur le côté du crâne. L'une légèrement moins que l'autre quand ils sont ascendants transistors. Serge Gainsbourg, né presque prématuré un 2 avril, reste l'un des plus célèbres radios. Tous les radios nés dans un chou et qu'on n'a pas envoyé sur les roses restent toute leur vie sur la même longueur d'onde. Entre eux, ils se reconnaissent au seul son de la voix. Les radios sont imaginatifs, ils n'apprécient rien tant que les choses légères et allusives. Ils n'aiment pas qu'on leur souligne les choses à gros traits ou qu'on les leur surligne à coups d'images en couleurs fluorescentes. Les radios sont subtiles. Ce sont habituellement des êtres bien orientés, au long cou, comme s'ils voulaient toujours capter quelque chose en avant d'eux. Ils sont intuitifs. On dit souvent qu'ils ont des antennes. Les radios ne sont pas des loirs. Le sommeil ne les passionne pas. Ils ne dorment habituellement que d'un œil, autrement dit, pas sur leurs deux oreilles. On aura compris que leur ascendant fétiche est celui de la boucle d'oreille. Ils vivent ordinairement dans les zones pavillonnaires. Au tennis comme au football, ils sont les rois du lobe. Les radios ne sont pas du genre renfermé. Ils ne laissent jamais personne sans nouvelles. Ils ont toujours leur mot à dire. Ils aiment donner de la voix. Ce sont des êtres organisés et sérieux. Chaque fin de semaine, ils nettoient leur pavillon de fond en comble. Chaque année, ils repeignent la grille.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Les radios aiment se réunir à Londres tous les 18 juin. La vie professionnelle des radios est diverse. Ce ne sont pas des personnes qui restent longtemps au même poste. Ils recherchent toujours des stations nouvelles. Les radios hommes et femmes recherchent souvent des professions qui permettent le travail à domicile. Beaucoup d'artistes, peintres ou sculpteurs illustrent le signe radio. Les radios s'appellent Jean, souvent, Hélène, allez, ça va pourquoi, ou Paul ou Léon. Les peintres du dimanche sont radio à 80%. On les appelle radio-amateurs. Eh oui. La vie amoureuse des radios est plutôt agitée. Liaison multiple, mais cependant sérieuse, qu'on ne peut assimiler au zapping. Les radios aiment en plusieurs langues. La femme radio recherche le partenaire étranger qui peut lui dire des mots d'amour qu'elle ne comprend pas mais pourra imaginer. Orson Welles était radio, ce qui le prédisposait à inquiéter son monde par une célèbre émission de gaz à effet de panique au parfum du fin du monde. Homère et Beethoven. Ce dernier est né en décembre. À l'extrême limite des dates du signe furent des radios de première bourre, mais de façon différente. Le premier parce qu'il était aveugle, et le second en prévision de sa surdité. L'histoire bien connue que Beethoven adorait raconter, vous savez comment on dit radio à un sourd, non ? Radio ! Est restée une histoire incontournable dans les réunions londoniennes des radios le 18 juin. Le point fort des radios est qu'ils sont toujours au courant de tout. Rien de ce qui est inhumain ne leur est étranger. On se doute qu'il y a des revers à la médaille, comme pour tous les signes. Ainsi, les radios ascendants clichés pulmonaires ont une lourde tendance à l'hypochondrie. Tous. L'argan de Molière, par exemple, ou le Hans Castorp de Thomas Mann étaient des radios. Les radios ascendants Gutenberg sont des inventeurs dans l'âme. Ils sont tenaces et toujours en recherche de nouveautés, mais sans renier les inventions passées. Leur mot d'ordre est « ceci ne tuera pas cela ». C'est pour eux quelque chose comme le 11e commandement. Cela dit, je connais bien des natifs du signe télé qui donneraient cher pour être des radios. Alors, quelques prévisions pour la semaine.
Oui, tenez. S'il vous plaît.
Santé d'abord. Dans la mesure du possible, restez chez vous, comme d'habitude. Et tout continuera d'aller bien. Si vous devez prendre un médicament, préférez toujours le générique. Travail. Si vous devez vous rendre à un entretien d'embauche, ne tombez pas dans l'esprit de servitude ascendant Carpette qui gobe tout ce qu'il entend sans affirmer sa personnalité. Jouez la connivence. Vous avez toutes vos chances. Ne dites pas oui à votre chef de service. Dites plutôt bien entendu. Et vous verrez que tout va changer dans vos relations. Et enfin, le plus important, amour.
Oui.
Eh bien, c'est le moment. Prenez le temps d'écouter votre partenaire sans l'interrompre inconsidérément. Ne vous endormez pas alors que la voix de votre amour continue à émettre. Ce serait la meilleure façon de compromettre toutes vos chances et de vous faire tirer les oreilles. Allez, bonne semaine, les radios. Et à la prochaine.
On va jouer à Expert Faussaire. Alors, Expert Faussaire, c'est un jeu que vous connaissez. C'est le jeu de bluff et de pastiche et de culture également, puisqu'il s'agit pour trois faussaires de faire croire à deux experts, et peut-être à nous tous d'ailleurs, qu'ils connaissent par cœur le début et la fin d'un certain roman. Alors, voilà comment les choses se sont passées. On s'est réunis avec Patrick Beignet, Jean-Bernard Puy, Dominique Muller, Odile Conseil, il y a quelques jours, c'est tout frais. Et Patrick Beignet, c'est le maître du jeu. Donc, il avait choisi un certain roman d'un certain auteur. Et attention, c'est un grand auteur. C'est un auteur que nous avons tous lu, au moins quand nous étions enfants ou adolescents, en tout cas. Donc, Patrick Beignet nous a fait part de son choix. Et puis, il nous a raconté l'œuvre, en gros, comme ça, un petit résumé. Et il a situé le début et la fin. À partir de ce moment-là, Dominique Muller, Odile Conseil, Jean-Bernard Puy ont pris une feuille de papier et ils ont écrit ce qu'ils pensaient être ce début et cette fin à partir des vagues informations que leur a données Patrick Beignet. On va découvrir leur pastiche ainsi que le vrai texte. Quant à Serge Joncourt et Eva Almassy, ils seront experts dans ce jeu. Ils ne savent rien, ils sont exactement comme vous, ils ne connaissent pas le titre du livre, ils ne connaissent pas l'auteur, ils n'ont encore rien entendu, ils découvrent tout. Donc Patrick Beignet, qu'est-ce que vous aviez choisi pour
J'ai choisi
ce
un
jeu?
Roman de Jules Verne,
oui.
Qui n'est pas des plus connus, mais qui est quand même un roman régulièrement réédité, qui s'appelle « Deux ans de vacances ».
Il y en a qui l'ont lu dans la salle ?
Sûrement.
Vous connaissez mieux Schopenhauer. Hein ?
C'est un roman qui date de 1887. C'est après la période des grands romans qui ont fondé la gloire universelle de Jules Verne. Oui. C'est l'année de ses 60 ans. Et c'est aussi une année de crise très violente pour lui. Entre autres, je ne vais pas entrer dans la biographie, mais il y a son neveu qui lui tire des coups de pistolet. Qui le blesse gravement à la jambe. Oui. Sa mère meurt. Enfin, il y a tout. Et surtout, c'est pas pire, mais c'est un choc très violent pour Jules Verne. Hetzel, son éditeur, meurt, et cet éditeur a été un vrai père spirituel pour Jules Verne. Donc, une période très difficile, que c'est la fin des années 80. Et pourtant, Deux ans de vacances n'est pas un livre du tout noir ou sinistre ou pessimiste. Il appartient au genre de la Robinsonnade que Jules Verne a assez souvent utilisé. C'est l'histoire d'un groupe de 15 garçons de 8 à 14 ans, des collégiens, qui partent sur un paquebot tous ensemble. Et le paquebot fait naufrage. Sans ça, il n'y aurait pas de roman. Hein, il faut bien lancer la chose. Et ces garçons se retrouvent sur une île avec un chien et un mousse du paquebot, hein, qui s'appelle Moko, qui est un petit noir. Et donc, ça forme une petite société, une sorte de micro-société assez variée, parce qu'il y a principalement des Anglais. Ils sont tous partis, je ne l'ai pas dit, d'Auckland, de Nouvelle-Zélande.
Oui.
Mais c'est un peu international. Il y a beaucoup d'Anglais, il y a des Américains et il y a deux Français qui sont évidemment les héros de cette histoire. Hein. On ne peut pas en attendre moins. Deux Français.
On connaît donc leur nom.
Ce sont deux frères et celui qui devient le héros s'appelle Brillant. Donc toute cette petite troupe reste deux ans sur l'île où le naufrage les a conduits. Ils sont tout seuls, ils doivent réinventer la société et les rapports collectifs. Et au bout de deux ans, un paquebot les découvre et les ramène à la civilisation. Ce qui est remarquable, ce qui fait le bonheur des livres de Jules Verne, c'est que tous ces enfants se conduisent absolument bien. Ils sont toujours propres. Au bout de deux ans, ils sont toujours vêtus comme au jour de la distribution des prix précédente. Et tout cela est d'une chasteté, d'un convenable achevé. Ce sont des civilisés, hein, même ceux qui ne sont pas français. Voilà donc le cadre de ce roman. Alors, je présente pour les faussaires la première et la dernière phrase.
Oui.
La première phrase, qui fait à peu près cinq lignes, donne une date précise et évoque la pleine mer. Elle contient une expression maritime un peu technique, un peu singulière. On est dans du Jules Verne, donc il faut éduquer le lecteur. La phrase qui conclut le roman est à peu près de la même longueur, hein, 4-5 lignes. Elle donne le nom du paquebot, qui est un nom à sonorité exotique, résolument. Et elle propose, si je peux me permettre un jugement un peu lourdement, une morale au lecteur.
Voilà, on reste dans l'ambiance maritime, on est à Brest et j'ai voulu que la mer soit très présente dans notre récréation littéraire des papous dans la tête, au quartz pour longueur d'onde. On va jouer donc, j'ai en main les pastiches, ils ont été tapés par mes soins pour que la lecture soit plus facile. Et puis il y a évidemment le vrai Jules Verne. Alors je distribue pour lecture, vous prenez un texte au hasard, un pour Odile Conseil, un pour Dominique Muller, un pour Jean-Bernard Pouy, et puis je garde le dernier pour lecture, puisqu'il faut une quatrième lectrice. Non mais, il faut toujours un peu recentrer Jean-Bernard Pouy. Il oublie qu'il y a un micro et qu'il vaut mieux être devant. Voilà, on prend 10 secondes pour lire les textes. Vous, Odile, vous êtes très proche de Serge Joncourt, faites en sorte qu'il ne voit pas votre...
J'ai barré la signature.
Bon, très bien, très bien. Alors attention, parce que vous, dans la salle, je vous demanderai votre avis. Hein. Je vous demanderai de retrouver Jules Verne et puis peut-être de rendre à chacun ce qu'il a écrit. Vous êtes d'accord pour jouer ? Hein ? De toute façon... Si on perd, c'est pas grave. En général, nos experts perdent. Et puis, ils reviennent quand même une autre fois. C'est pas un problème. Voilà. Alors, on vous propose une première lecture. Donc, est-ce du Jules Verne ou pas, et si pas, de qui est-ce. Vous aurez de tout, Réva Almassy et Serge Joncourt, pour vous décider. Première lectrice, Odile Conseil.
Le début.
Oui.
Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages, se confondant avec la mer, limitaient à quelques brasses la portée de vue. Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment fuyait presque à sec de toile.
Oui.
La fin ? Surtout que les lecteurs n'oublient pas, en songeant au jeune naufragé du Sloughi, mûri par les épreuves et fait au dur apprentissage de l'existence, qu'à leur retour, les petits étaient presque des grands, les grands presque des hommes.
Ah, c'est la fameuse moralité dont il était question. Enfin, est-ce celle de Jules Verne ou d'un autre ? Je ne sais pas. Alors, Réva Almassy, Serge Joncourt, ils écrivent, oui. Ils prennent des notes. Qu'est-ce que vous pensez, Serge ?
Je prends des notes et je n'arrive pas à me relire. Alors.
Première approche, première impression.
Bon, c'est pas Jules Verne. Bon, ça, c'est pas douteux.
On peut savoir pourquoi. Bon, ou c'est indiscret.
Il suffit pas qu'il y ait les nuages qui se confondent avec la mer pour qu'il y ait plus de visibilité. Et Jules Verne était avant tout un navigateur.
Oui.
Il ne faut pas l'oublier, il y a énormément navigué. Donc il ne commettrait pas cette... Bon, comment appeler ça, ce n'est pas une bêtise, c'est juste une approximation tout à fait insupportable pour quiconque a au moins pris une fois le ferry, voire le tunnel sous la Manche. Non, je vous assure, mettez-vous, après l'émission, allez au bout de la rade de Brest. Vous verrez que les nuages se confondent avec la mer et pourtant on y voit quelque chose. Donc, après, le léger bâtiment, il est dit dans la dernière phrase, le léger bâtiment filait à sec de toile.
Oui. Bah, Patrick Béni a parlé d'une métaphore maritime, c'est ça, Patrick, hein ?
D'une expression maritime.
D'une expression, oui.
Oui, mais enfin, là, on est dans la méta faible, enfin, je veux dire. Et puis, comment, il file 20 nœuds à sec de 100 toiles. Ils sont forts. C'est très fort. Ou alors, il était un moteur, on me l'aurait caché. Bon, c'est pas Jules Verne, j'ai une petite intuition, peut-être, pas encore, mais enfin, en tout cas, c'est pas Jules Verne.
D'accord, bah, c'est déjà un bon point, enfin un acquis, quoi, pour vous en tout cas. Réva Almassy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je pense que ce n'est pas de Jules Verne non plus.
Ah bon ?
J'ai plusieurs indices, par contre, sur l'auteur probable.
Ah oui, déjà ?
Oui, parce que la date, d'abord, oui. C'est presque, ou même la Journée internationale de la femme.
Ah, c'était quoi la date, Odile Conseil ?
9 mars.
9 mars 1860.
Ah oui.
Et alors donc, c'est un texte de femme, de toute évidence. En plus, peut-être même de quelqu'un qui travaille à Courrier international.
C'est le cas d'Odile Conseil, précisons-le.
Oui, voilà. Et le même côté féminin, je vois dans ce léger bâtiment qui filait, c'est une activité de femme depuis toujours. Quant à Sloughi, à qui ça paraîtrait exotique, à quelqu'un qui a des enfants en bas âge et qui a cette préoccupation d'ailleurs que les petits étaient presque des grands et des grands bientôt des adultes.
Oh.
Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans mon analyse parce que j'aurai un deuxième tour.
Exactement.
Oui. En fait, elle a clairement dit tout ce que je n'osais pas dire.
C'était difficile pour vous
temps,
de le dire.
Hein. Le fait que ce soit écrit par une femme n'est pas en soi un reproche.
Je veux dire. Du tout. Je suis féministe, hein, oui, je précise. Ouais,
voilà. Deuxième lecture, deuxième lectrice, Dominique Muller.
Alors, le début. Le 12 mai 1876, l'océan Pacifique fut secoué par l'une de ces tempêtes dont le récit fait frémir les marins les plus aguerris. Elle attaqua par bâbord arrière un steamer parti d'Auckland 5 jours plus tôt. Le combat était inégal.
Oui, vous froncez le nez, Serge. Il y a un problème avec le steamer.
Mais qui attaquait ? J'ai pas...
Elle, la tempête.
Ben oui.
Une de ces tempêtes, je pense.
Oui.
Non, mais ne dites rien, Dominique.
Bah oui, enfin,
vous ne devez rien dire.
Oui, s'il ne comprend même pas ce qu'on lui dit, comment voulez-vous qu'elle...
Ne soyez pas vexés.
Alors, la fin, accoudée au bastingage du Bora Bora, Brion regardait Sherman s'estomper à l'horizon. Il se rappelait l'adolescent qu'il était 2 ans plus tôt. « J'ai plus appris là-bas que sur les bancs du collège », pensa-t-il. Le ciel rosissait, l'île avait disparu. Vous avez compris tous les sujets, tous les
Alors, qu'est-ce qu'on en pense, là, Serge Joncourt ?
Ça va... Oui, non, bon, c'est un bel exercice, c'est bien fait, tout y est. Ouais. Le bateau s'appelle le Bora Bora.
Oui, c'est un joli nom pour un bateau.
Oui, on est dans l'océan Pacifique, ça c'est dit au début, c'est une précision importante. Là, c'est un steamer, donc. Hein, donc
ouais.
Plus question de voile, etc.
Comme chez Mallarmé.
Oui. Alors, il y a cette sorte, la fin qui est un petit peu trop belle, quoi. Enfin bon, ces 2 ans, finalement, une sorte de... Ça correspond au cahier des charges, parce qu'il y a une sorte de morale. Voilà. Mmh. Ces 2 ans, si vous voulez, n'ont pas servi à rien, n'ont pas été perdus, puisqu'ils ont quelque part grandi, mûri.
Eh ouais. Oui. Il s'en passe des choses en 2 ans.
Donc, soit c'est quelqu'un de Jules Verne, enfin, soit c'est quelqu'un de très doué, ça c'est Jules Verne lui-même, qui était assez doué, il faut bien le dire aussi.
Ouais.
Là, c'est plus difficile. Il faudra un deuxième tour.
D'accord, mais vous n'excluez pas l'hypothèse Jules Verne.
Oui, c'est ça.
Hein, d'accord. Eva Almassi, qu'est-ce qu'elle pense ?
Ben moi, j'en pense que ce n'est pas 2 ans de vacances, c'est 2 ans d'études. Et on veut tout restituer, tout ce qu'on a entendu là par le professeur Beignet. Tout y est, absolument, tout est minutieusement noté. Alors, la seule facétie, c'est qu'il y a quasiment des... Enfin, il y a beaucoup d'allitérations et quasiment des anagrammes. Babor et Bora Bora, c'est donc une inspiration soudaine. Mais tandis que Jules Verne, il a écrit tous les romans entre les deux. Donc, il ferait pas ce jeu de mots, puisqu'il a déjà oublié le début depuis Belle Lurette. Hein. Et donc, moi, je suis sûre et certaine que c'est un faussaire, mais je ne sais pas lequel pour l'instant.
D'accord, vous allez avoir le droit à une troisième lecture. C'est la lecture de Jean-Bernard Pouy.
Alors, le début. Le 17 août, le vent forcit subitement et les vagues courtes, claquantes, se mirent à taper la coque avec une régularité inquiétante. Moko, le petit mousse, regarda avec appréhension les haussières proche de la rupture, se tendre comme des arcs.
La fin.
Et la fin. De la cheminée du Mocambo s'échappait un panache noir qui seul pouvait rappeler des heures plus sombres. L'océan était calme, mais tous les survivants s'en méfiaient désormais. Il ne faut jamais oublier les maelstroms qui grondent sous la surface étale des eaux du Pacifique.
Ah, ah ouais, ça vous plaît ? Ça vous fait rire. Qu'est-ce qu'il en pense, Serge Joncourt ?
Il y en a. Hein.
Il y a du souffle. Hein.
Je ne m'en suis pas remis encore. C'est comme se baigner dans une eau très fraîche. Enfin, tout y est. Hein, les termes maritimes du premier paragraphe. Là,
ah ouais, oui, c'est costaud même.
Les vagues courtes qui claquent. Et bon, alors, ils auraient peur de vagues courtes, alors irrégulières. C'est ça, c'est troublant, parce que si les vagues sont courtes, elles ne font pas peur. Enfin, bon,
ça dépend, ce n'est pas vous qui êtes dans le bateau. Hein.
C'est un exercice qui est trop bien fait, encore une fois. Donc, j'ai du mal. Là.
Vous n'êtes pas dans un voilier, vous ramez.
Je rame. C'est toujours autant de mal à relire mes notes, en plus.
On va passer à Eva Almassi, je reviendrai vers vous après. Eva.
J'aime bien ce texte, puisque moi, j'aime quand ça claque comme ça, claque, moko, tout ça. C'est très joliment fait. C'est les haussières, le terme technique, que je ne connais pas. Donc déjà,
maelstrom,
ça me paraît un peu... Ah non, ça, j'ai entendu.
Il y a haussières et maelstrom.
Oui, mais ça,
on va
maelstrom,
rien vous expliquer,
c'est à la fin, quand il n'y a pas de consigne. Mm. Par contre, il fallait lourdement insister sur une moralité à tirer. C'est plus proverbial, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ça ne va pas loin, ce n'est pas creusé, c'est...
C'est superficiel.
C'est un peu superficiel.
Oui.
Donc moi, je pense que c'est un bon texte, mais un texte de faussaire. J'aime bien le Mocambo, parce que là encore, ça rime un peu, enfin, ça allitère avec Moko. Par contre, Moko étant un personnage important, mm-hmm. le mousse, mm-hmm. ça, Jules Verne pouvait avoir en tête du début à la fin. Oui. Cependant, donc, j'élimine pour l'instant Verne de ce...
D'accord, on progresse doucement. Hein.
Non, mais c'est vrai.
Maintenant, parce que j'ai personne encore.
C'est l'imaginaire, on sent la limite de l'imaginaire quand même du faussaire, parce que Bon, il a Moko, il se dit, bon, comment on va l'appeler le bateau? Mokambo. Voilà, voilà. Le mousse sera appelé Moka, il l'aura appelé Mokaba. Enfin bon, c'est le seul point un peu faible de l'exercice.
Oui, mais c'est vraiment le seul. Hein. Oui. Allez, je vous lis le quatrième texte. L'océan se déchaîna le quatrième jour de la traversée, le 4 novembre 1862, peu avant l'aube. Les passagers entendirent la voix du capitaine. « Marin, à la vergue, ramenez la voilure !» et sûrs que leur aventure allait commencer. La fin. Rentrés chez eux, ils regrettèrent en secret la habanita et leur vie sauvage. Seul Brillant ne craignait pas d'évoquer les actions, bonnes ou mauvaises, qui avaient fait de ses enfants des hommes courageux.
Oh, oh, j'en ai la chair de poule. Non, c'est bien vu, ça, parce que l'océan se déchaîne. Là, au moins, ils se déchaînent. Hein. Ce n'est pas des vagues courtes régulières qui tapotent. Parce que, dis donc, chez Jules Verne, on n'a pas... Vous voyez, non, mais...
Oui, oui, c'est vrai,
non,
c'est
mais
pas
les
le même
autres,
rythme.
Ils voulaient d'abord, la mer se lève un peu, et puis non, lui, il y va. L'océan se déchaîne. Et en plus, il se déchaîne à quelle heure? Juste avant l'aube.
Oui,
juste avant l'aube. Oui. Ça, c'est pervers. C'est ce qu'il y a de pire. On n'est pas bien réveillé. Le dernier qui a pris son quart, il a encore le nez dans le... Il est dans le rhum. Enfin, c'est le pire moment, ça, vous voyez. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et puis la fin, bon, elle est, heureusement, il n'y a que 5 lignes. Il y en aurait eu 7. Je pense que j'aurais pleuré. Parce que la morale y est. Je le lirai, vraiment. Je le lirai, c'est promis. Mais déjà, là, je suis touché par l'intention.
Très bien. Très joli compliment pour ce texte. Eva Almassi, qu'en
avez-vous pensé? Alors là, je peux vous dire que sans me souvenir, alors que c'est un roman que moi, j'avais lu petite, mais en hongrois, bien sûr. Ah. Et on traduisait même le prénom. C'est donc de Verne Gyula que j'ai lu, qui est Evi Vocatio. Vous reconnaissez un mot. Mais donc, c'est à peu près comme ça, de loin, que je reconnais certains mots, que je reconnais une atmosphère, que je sais qu'au 19e siècle, on pouvait annoncer comme ça, et maintenant, l'histoire peut commencer le quatrième jour de la traversée, peu avant l'aube. Donc, ça a une allure, et toute l'histoire va partir là, qu'il conclut, ma foi, de fort jolie façon.
Donc,
et
vous diriez Verne comme ça, dès le premier tour.
Moi, je dis Verne dès le premier tour.
Oui, comme ça, c'est réglé.
Parce que, peut-être que... Mais c'est ainsi que les enfants deviennent des hommes courageux et que les experts deviennent aussi des experts courageux.
Oui, enfin, là, oui.
C'est vrai,
oui.
C'est vrai. Alors, je note une grosse hypothèse, Verne, pour vous deux. Et on refait un tour de lecture. Et là, je demande leur avis aux gens dans la salle. Odile Conseil.
Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages, se confondant avec la mer, limitaient à quelques brasses la portée de vue. Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment fuyait presque à sec de toile. La fin ? Surtout que les lecteurs n'oublient pas, en songeant aux jeunes naufragés du Sloughi, mûri par les épreuves et fait au dur apprentissage de l'existence, qu'à leur retour, les petits étaient presque des grands, les grands presque des hommes.
Alors.
C'est touchant. Non, je veux dire, il y a une dimension... comment dire ? Bon, c'est pas trop se fâcher.
Bon, vous avez parlé de la journée de la femme, tout ça. Bon, alors, c'est touchant, c'est un compliment.
On parle de quelques brasses. Hein, on a quelques brasses pour connaître un petit peu la vie privée de quelques-uns, enfin, de quelques éléments. Je sais que Odile ne sort jamais sans son sac piscine. Et très
ça,
probablement,
c'est vrai.
Et demain, 8h, elle sera sur la rade en maillot. Elle fera quelques brasses avec son slip de bain Sloughi. tel qu'il est dit dans la... Et puis il y a cette dimension maternelle bienveillante, cette préoccupation chez Odile, y compris quand il s'agit de parodier comme ça un fragment de roman, à bien considérer que les enfants aient grandi, les petits sont devenus des hommes, il y a une sorte de... C'est touchant en tant qu'ami, enfin jusque là on l'était. Mais je la reconnais, trait pour trait. Enfin,
allez, une Odile pour Serge Joncourt et donc Eva Almassi.
Moi, je prends la même option, comme je l'ai fait depuis le début. Alors, c'est pas touchant, gentil. Hein. Le début donne mal de mer. En tout cas,
ça brasse beaucoup de choses, pas que quelques brassées. Donc, moi, j'aime bien ce texte et je trouve que c'est un bon texte d'Odile Conseil.
Très bien, mais ils sont d'accord. C'est pas toujours bon signe, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez dans la salle? On va essayer d'être méthodique. Est-ce que vous pensez que ce texte est de Jules Verne? Ne s'exprime que ceux qui souhaitent dire oui. Vous êtes 6. Ça, c'est bien, parce que les autres, ça ne veut pas dire qu'ils pensent non. Hein. Simplement, ils n'osent pas dire quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que ce texte est d'Odile Conseil? Vous pensez comme les experts?
Oui.
Oula. Ah oui, vous ne vous laissez pas impressionner par eux. Hein. Non. Vous pensez que c'est de quelqu'un d'autre, Jean-Bernard Pouilly?
Non.
Dominique Muller? Oui, il y a 2-3 Dominique Muller. Bon, la majorité... Et pour Odile Conseil, il y a une minorité très, très forte de 6 ou 7 personnes qui est pour Jules Verne, je note. Et on passe à la lecture suivante. Dominique Muller.
Le 12 mai 1876, l'océan Pacifique fut secoué par l'une de ces tempêtes dont le récit fait frémir les marins les plus aguerris. Elle attaqua par bâbord arrière un steamer parti d'Auckland 5 jours plus tôt. Le combat était inégal. Accoudé au bastingage du Bora Bora, Brillant regardait Sherman s'estomper à l'horizon. Il se rappelait l'adolescent qu'il était 2 ans plus tôt. « J'ai plus appris là-bas que sur les bancs du collège », pensa-t-il. Le ciel rosissait, l'île avait disparu.
Qu'est-ce qu'il en pense, Sergencourt?
Oui, moi je pense que c'est Dominique Muller, même si bon, c'est elle qui l'a lu en plus. Bon. Parce que, alors la tempête... Déjà, on n'a que le récit de la tempête, et ce récit fait peur. Ça, c'est Dominique a trop lu et pas assez navigué. Le récit de la tempête fait plus peur que la tempête elle-même. Enfin bon, je ne veux pas non plus être trop long là-dessus. Et alors, ce qui est curieux, c'est que la tempête, hein, qui impressionne tout l'océan Pacifique, c'est énorme, l'océan Pacifique, je ne sais pas si vous avez une idée.
Ah ben, je ne suis jamais allé, mais j'imagine.
C'est grand, oui. Hein, c'est grand. C'est grand. Oui. Mais alors, là où la tempête est perverse, c'est qu'elle attaque bâbord arrière.
Ouais.
Attaque elle... pas bâbord avant. Non. La tempête.
Oui.
Arrière.
Elle pourrait pousser le bateau, quoi. Presque.
Non, mais vous avez déjà vu une tempête en mer.
Dieu merci, non.
Non, parce que si la tempête ne fait qu'attaquer bâbord arrière, on se met bâbord avant. Et on risque rien. Bon. Alors. Non, ça, c'est une âme ferroviaire méditerranéenne, telle que j'imagine Dominique pour la rêver beaucoup. Voilà. Et le bastingage, chairman, enfin une sorte d'ambiance club. On est plus au yacht club que dans la vague. Là.
Très bien. Dominique Muller, donc. Et pour vous, Eva Almassi?
Pour moi, c'est Dominique Muller aussi.
Ah bon?
Parce que je savais que c'était un texte de Fosser. Après, j'ai entendu les autres. Et puis, je reconnais là, d'abord, un autoportrait. Quand elle écrit, c'est le récit qui fait frémir. Hein, c'est pas la tempête elle-même, c'est le récit à faire qui fait frémir. Donc ça, c'est un autoportrait de quelqu'un qui a d'une générosité, qui rend terme à terme tout ce que Patrick Beignet lui a donné comme consigne. Tout est rendu.
C'est une bonne élève.
Et bien rendu, très oui. Joliment paraphrasé.
Bon, bah, deux Dominique Muller. Mais dites donc, il y en a un de vous deux qui copie sur l'autre, non?
Ben non, non mais là, c'est notre lucidité.
Parce que là, c'est assez fluide et simple, on va dire. Hein. Enfin, jusque-là.
Alors, cette lecture faite par Dominique Muller et qui lui a été attribuée par nos deux experts, Eva Almassi, Sergencourt, je vous demande, dans la salle, de me dire à qui vous l'attribuez. Est-ce que vous l'attribuez à Jules Verne? Arrêtez, Jean-Bernard, pouvez de faire des signes. Est-ce que vous pensez, comme Eva et Serge, qu'il s'agit de Dominique Muller? Alors, ce serait du Jean-Bernard Pouilly?
Oui.
Oula. Oula. Et est-ce que certains sont en faveur d'Odile Conseil?
Oui.
Bravo, monsieur. Il faut avoir le courage de le dire. Seul contre tous. Est-ce que ça se complique après, Jean-Bernard Pouilly? 3e lecture.
Alors, le début. Le 17 août, Le vent forcit subitement et les vagues courtes claquantes se mirent à taper la coque avec une régularité inquiétante. Moko, le petit mousse, regarda avec appréhension les haussières, proches de la rupture, se tendre comme des arcs. Et la fin de la cheminée du Mokambo s'échappait un panache noir qui seul pouvait rappeler des heures plus sombres. L'océan était calme, mais tous les survivants s'en méfiaient désormais. Il ne faut jamais oublier les maelstroms qui grondent sous la surface étale des eaux du Pacifique.
Bon, c'est un beau texte, il a été salué par tout le monde ici. Serge Oncourt, peu dépassé, hein.
Non, si vous voulez. Bon, alors, il y a ce qui trahit un peu Jean-Bernard Pouy, qui, on le sait tous, un grand traducteur de l'allemand vers le français. C'est les termes. C'est Maelstrom, par exemple. C'est pas vraiment allemand, moi, on me dirait. Mais enfin, il aime bien l'utiliser. Souvent, il me dit, « Ah, t'as l'air un peu Maelstrom. T'as pas un Maelstrom à l'estomac. » Enfin, c'est... Ça le trahit parce que c'est de son vocabulaire courant. Quoi.
Ne répondez rien, Jean-Bernard.
Ne répondez pas, s'il vous plaît. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des images. Des haussières qui se tendent comme des arcs.
Oui, c'est beau ça.
C'est une image. Hein. Ouais. C'est fort. Hein.
On ne sait pas trop ce que sont les haussières. Mais...
on n'y croit pas, on sent qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Bon, le haussière, en gros, ça tient le haut-bas. On est bien d'accord. Et alors, les vagues courtes, craquantes, on y revient, claquantes même, qui font peur à ces navigateurs-là. Bon. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont passé 2 ans perdus sur une île déserte, mais ils ont encore plus peur de la mer à la fin. Parce que là, ils partent par temps calme. Mais déjà, ils supposent, ils projettent des maelstroms. Enfin bon, l'histoire n'est pas finie. Hein.
Ah ben, ils ont eu une aventure douloureuse quand
même.
Oui,
ça leur a fait mal. Ouais.
Ça ne s'oublie pas comme
ça. Oui, mais ça, c'est la dimension psychologique de Jean-Bernard Pouy.
Qui travaille
ses personnages, qui les essore et qui les restitue jamais intacts. Quoi, vous voyez, il faut toujours qu'ils soient abîmés.
D'accord. Donc, Jean-Bernard Pouy pour vous, pour Eva Almassy.
Bah là, en réécoutant, j'avoue que j'ai hésité un peu pour du Jules Verne. Beaucoup de choses m'ont énormément plu. D'abord, la beauté du texte que j'ai déjà salué tout à l'heure. Et puis, Mokambo, tout d'un coup, ça me dit quelque chose vaguement. Et ce réserve... pour laquelle, quand même, j'attribue ce texte, moi aussi, à celui qui l'a lu et bien interprété, c'est-à-dire Jean-Bernard Pouy, parce que ce qui me paraît le limiter quand même dans l'expérience humaine, pourquoi leur seule préoccupation serait encore la mer et l'océan, alors qu'ils vont retourner à la civilisation? Donc il faut, en bon romancier, qu'il y ait un gain pour la vie entière à venir.
Et ça, bon, c'est Jean-Bernard Pouy qui peut avoir fait cette légère erreur. C'est ça.
Ça fait moi, ça.
Il les accompagne pas, il les prend pas par la main pour les accompagner dans la vie.
Prendre un enfant par la main, c'est pas lui. C'est pas lui.
Non.
Alors, cette lecture que vient de faire Jean-Bernard Pouy, qui lui a été attribuée par Serge Oncourt et Val Massy, elle est de qui? Est-ce que vous êtes d'accord avec nos experts? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un texte écrit par Jean-Bernard Pouy?
Oui.
Les oui?
Oui.
C'est pas, hein,
c'est pas réconfortant pour
non.
moi.
Est-ce que c'est du Jules Verne?
Non.
Est-ce que c'est du Dominique Muller?
Oui.
J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui s'abstiennent. Sur ce texte, on n'est pas très sûr, hein. Qui connaît les haussières? Qui connaît Maelstrom? Est-ce que c'est de l'Odile Conseil?
Oui.
Il est à peu près aussi seul que l'autre monsieur. Bon, alors ça, c'est un texte qui divise. Hein. C'est pas simple, mais vous l'avez attribué à Jean-Bernard Pouy, tous les deux en cœur. Moi, je vous lis le quatrième et dernier texte. L'océan se déchaîna le quatrième jour de la traversée, le 4 novembre 1862, peu avant l'aube. Les passagers entendirent la voix du capitaine. « Marin, à la vergue, ramenez la voilure !» Et surent que leur aventure allait commencer. La fin. Rentrés chez eux, ils regrettèrent en secret la habanita et leur vie sauvage. Seul Brillant ne craignait pas d'évoquer les actions, bonnes ou mauvaises, qui avaient fait de ses enfants des hommes courageux. Alors vous avez dit, Serge Oncourt, Verne, Jules et Eva Almassi aussi. Vous êtes toujours d'accord ? À vrai dire, vous n'avez plus le choix. Mais est-ce qu'on peut avoir un argument en faveur ?
Là, pour le coup, il y a une vraie fin, effectivement.
Courageux.
C'est un roman d'apprentissage. On passe 2 ans comme ça dans une île perdue. Il faut... Eva l'a dit tout à l'heure, donc je reprends cet argument. Elle a raison. Il faut qu'il s'en sorte. Et Brillant s'en sort. On comprend son nom. Voilà.
Brillamment. Eva Almassi, toujours d'accord.
Et il parle en chef, en plus, puisqu'il parle des autres comme des enfants.
Oui,
donc lui,
apparemment, il a dirigé.
Il a encore plus mûri. Et sous-entendu, si le romancier s'est identifié à son personnage principal, et on a vu qu'il a traversé des épreuves cette année-là, il se donne du courage à la fin.
D'accord, donc, de voilà. Verne. Alors, dans la salle, vous êtes pour Jules Verne ?
Oui.
Oula. C'est impressionnant, hein. Vous êtes pour quelqu'un d'autre ? Pour qui ?
Jean d'Ormesson, non.
Alors, il y en a qui sont pour Dominique Muller, disons ? Non.
Personne.
Pour Odile Conseil ? Ah, une personne ou deux.
Une ou deux personnes pour Odile Conseil.
Oui, mais il y a des gens qui sont très courageux.
C'est pas la même.
C'est pas la même.
C'est la famille.
Et pour Jean-Bernard Pouy ? Ben écoutez, maintenant, on va tout découvrir.
Ah là là.
Qui a en main, parmi nous, les vraies phrases de Jules Verne ? Odile ?
Moi, je voudrais dire bravo aux 6 premiers qui ont dit que c'était Jules Verne, parce que c'est moi qui l'ai lu, effectivement.
Bravo, bravo dans la salle. Odile, ce texte vous a été attribué. Vous êtes fière ?
Je suis très, très émue. Rien bouleversé.
On peut le réécouter.
Pendant la nuit du 9 mars 1860, les nuages se confondant avec la mer limitaient à quelques brasses la portée de vue. Sur cette mer démontée, dont les lames déferlaient en projetant des lueurs livides, un léger bâtiment fuyait presque à sec de toile.
Un sac de toile, qui pouvait inventer cette expression parmi eux ?
Odile.
La fin. Oui. Surtout que les lecteurs n'oublient pas en songeant au jeune naufragé du Sloughi, mûri par les épreuves et...
Non, ce n'est pas le maillot de bain d'Odile Conseil.
Mûri par les épreuves et fait au dur apprentissage de l'existence, qu'à leur retour, les petits étaient presque des grands, les grands presque des hommes. C'est le côté féminin de Jules Verne.
Mais c'est ce que je voulais dire.
Ça fait 1-0 chacun pour vous. C'est mal
parti. Elle est trop forte, elle dit ce que je voulais dire. C'est le côté féminin de Verne.
Dominique Muller, vous nous lisez le texte que vous aviez si bien lu et puis vous nous dites après de qui il est.
Le 12 mai 1876, l'océan Pacifique fut secoué par l'une de ces tempêtes dont le récit fait frémir les marins les plus aguerris. Elle attaqua par bâbord arrière un steamer parti d'Auckland 5 jours plus tôt. Le combat était inégal.
Oui.
Accoudé au bastingage du Bora Bora, Brillant regardait Sherman s'estomper à l'horizon. Il se rappelait l'adolescent qu'il était 2 ans plus tôt. « J'ai plus appris là-bas que sur les bancs du collège », pensa-t-il. Le ciel rosissait, l'île avait disparu.
Alors, vous avez dit que c'était plutôt Yacht Club, que c'était plutôt Dominique Muller. C'est de qui, Dominique ?
Eh bien, bravo au monsieur du troisième rang qui, tout seul, avait dit « c'est Odile Conseil », car c'est Odile Conseil.
Oh là là ! C'est mal parti. Hein.
Ça fait 2-0. Bah, vous êtes à la moyenne pour le moment. Hein.
C'est pas fini.
On peut espérer de la suite. Jean-Bernard Pouy, à vous de lire.
Mais grâce à moi, ils vont marquer un point parce que, effectivement, c'est mon texte. Je ne vais pas vous faire...
Non, il était très beau, Jean-Bernard.
Le 17 août, le vent forcit subitement et les vagues courtes, claquantes, se mirent à taper la coque avec une régularité inquiétante. Moko, le petit mousse, regarda avec appréhension les haussières proches de la rupture, se tendre comme des arcs. Et à la fin de la cheminée du Mokambo s'échappait un panache noir qui seul pouvait rappeler des heures plus sombres.
L'océan était calme, mais tous les survivants s'en méfiaient désormais. Il ne faut jamais oublier les maelstroms qui grondent sous la surface étale des eaux du Pacifique.
Voilà, bah c'est du très beau Jean-Bernard Pouille. Vous marquez un point. Il était temps hein, d'en marquer un. Et alors le texte que je vous ai lu et que je vais vous relire. L'océan se déchaîna le quatrième jour de la traversée, le 4 novembre 1862, peu avant l'aube. Les passagers entendirent la voix du capitaine « Marin à la vergue, ramenez la voilure !» Et sûr que leur aventure allait commencer, elle a fait ça toute sa vie, Dominique Müller.
Ah là là.
À la fin, cette fameuse moralité si belle, rentrés chez eux, ils regrettèrent en secret la habanita et leur vie sauvage. Ça, ça faisait un peu cocktail quand même. Seul Brillant ne craignait pas d'évoquer les actions bonnes ou mauvaises qui avaient fait de ses enfants des hommes courageux. Bravo Dominique, vous avez été prise pour Jules Verne. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est un jeu extrêmement difficile.
En tout cas, moi, je
Mais il fallait rester cohérent, si vous voulez. On parle de naufrage. Donc,
On se trompe au début. Il faut
donner de sa personne. Il faut, on a plongé, si vous voulez. Voilà.
Bien vu, Serge Joncourt, bravo. Alors, on retrouve nos dissertants, Patrick Beignet, Patrice Caumont, avec leurs dissertations et leurs examinateurs, Jacques Jouet et Dominique Müller. On va commencer par la dissertation de Patrick Beignet, examinateur Jacques Jouet. Vous nous rappelez le sujet, Jacques Jouet.
Alors, le sujet. Comme le dit Louis Althusser dans sa somme inédite « Bergson ne m'aime », nanana, prédilection, nanana, ban public, nanana.
Oui.
À la lueur de vos expériences personnelles, sans vous étaler cependant de façon trop intime, vous vous demanderez dans quelle mesure il est possible d'affirmer le primat du comique en situation de servitude involontaire.
Alors, c'était un beau sujet, Patrick Beignet, inspirant. Niveau bac, vous diriez, Jacques Jouet, ou pas ?
Niveau le premier bac, oui.
Ça n'existe plus depuis très très longtemps, ça.
Eh bien, ça va. Si, ça existe toujours, je regrette.
Patrick Beignet, d'abord, votre premier devoir consistait à recomposer cette citation. Alors, qu'est-ce que ça donne avec prédilection et banc public ?
Ça donne, comme Schopenhauer le disait déjà, je n'ai aucune prédilection pour les bancs publics que je laisse aux esclaves, je préfère mon transat.
Oui, c'est pas mal. Hein,
c'est
une bonne
franc
citation,
et direct.
Oui, on peut l'applaudir, oui.
C'est bien tout ce qu'il y avait à faire.
Non. Qu'est-ce que vous pensez de la citation ? Imaginez, puisque c'était le propos d'imaginer, Jacques Jouet.
Oh ben, elle est assez voisine de celle dont, je suis parti, oui.
Bon, alors après, Patrick Beignet, évidemment, vous traitez le sujet.
Rien.
Oui, vous traitez le sujet.
Ah, oui. On a déjà beaucoup écrit sur la servitude involontaire, et certains auteurs ont même écrit des choses compliquées à ce sujet. Il n'est pas nécessaire de chercher très loin, cependant. Le modèle contemporain de la servitude involontaire, nous la trouverons chez le candidat au baccalauréat, qui se trouve enfermé dans une salle austère pendant 4 heures par un beau jour de printemps, où il serait tellement mieux dans son transat. Candidat au bac, je pourrais désespérer, tâcher de trouver une ou deux idées sur ce Althusser dont je ne connais absolument rien, sinon le prénom Louis. Mais que tirer de ce prénom ? Quel bénéfice aurais-je pourtant à me lamenter, à prendre les choses au tragique ? Donnons alors le primat au comique, à propos duquel le style du sujet est un peu incertain d'ailleurs. Primat sur quoi ? Mais n'allons pas chercher l'examinateur dans son sommeil. Et construisons plutôt un dialogue avec lui. Reconnaître le primat du comique, ce serait, par exemple, faire rire l'examinateur. Je vais donc chercher les moyens de faire rire cet être énigmatique, de m'en rendre maître, de le réduire à une servitude involontaire, de le faire rigoler en un mot. Reste à s'en donner les moyens. Ça, c'était la première partie. Nous abordons la seconde. Comment faire rire l'examinateur ? Le plus simple est de dire des stupidités. Par exemple, que Louis Althusser est un navigateur portugais du XVIe siècle qui a découvert le pôle Nord. Cela ferait rire l'examinateur, mais peut-être pas tant que cela. Vu la baisse de niveau actuel des professeurs, il n'est pas même certain qu'il s'en rendrait compte. On ne dira jamais assez que la crise de recrutement dans l'enseignement conduit les élèves à entendre parfois des choses catastrophiques. Il va de soi que ces remarques sur le niveau des professeurs sont purement fantaisistes et cherchent seulement à dérider le correcteur, ce qui était mon projet annoncé. Peut-être rit-il jaune, l'essentiel est qu'il rit. Ce qui nous conduit tout droit à la troisième partie. Cette troisième partie tentera d'intégrer mes expériences personnelles sans m'étaler de façon trop intime, comme j'y suis invité. Pour cela, j'évoquerai mes expériences de lecture philosophique, très peu intimes et de toute façon très peu étendues. Par exemple, je puis invoquer mes lectures d'Althusser, mais ça n'ira pas très loin, car j'ignore tout de ce philosophe, je l'ai déjà dit, et je ne suis pas vraiment certain qu'il ne soit pas un navigateur portugais du XVIe siècle, après tout. J'espère que ce n'est pas le cas, sinon l'élément comique de ma deuxième partie serait complètement raté. Donc, je dois tenter de fonder mon raisonnement sur mon ignorance complète d'Althusser. Mais cela me place soudain dans une position supérieure, car une ignorance qui se connaît elle-même cesse d'être absolue et devient toute relative. Sachant que j'ignore, je n'ignore plus complètement, puisque je sais que j'ignore. C'est quand même drôle, non ? Après une pareille démonstration, on peut se permettre de quitter le banc public de la salle d'examen et rejoindre son bon vieux transat pour attendre les résultats du bac avec optimisme.
Et ça a été écrit sous vos yeux. Hein. Alors Jacques Jouet, vous notez le candidat quand même.
Oui, alors ma réaction personnelle et celle de l'examinateur ne sont pas exactement les mêmes. Oui.
Racontez-nous. Et
personnellement, j'ai beaucoup ri, mais l'examinateur a moins ri.
Ah bon ? Oui. Ah, pas le sens de l'humour.
En particulier dans la deuxième partie de cette dissertation,
oui.
Qui commençait d'ailleurs très bien, parce que... Ben voilà, la situation personnelle de l'examen qui était convoquée dès le début du travail était tout à fait une très belle idée. Alors ensuite, ces considérations un petit peu amères sur le savoir et sur le niveau de l'examinateur...
Oui, évidemment, c'était dangereux hein, de sa part. Oui,
dans ce cas-là, là, évidemment, la note va descendre.
Ah oui, jusqu'où ? Jusqu'où ?
C'est très bien. Bon, j'aurais pu lui dire, voilà, ça dérida l'examinateur, mais... Ça ne marche pas si facilement que ça. Et puis après, ça se redresse. Alors, j'hésite beaucoup. Il faudrait donner trois notes.
Oui, ben, technique, artistique et
une très bonne note,
pas globale.
Une très mauvaise et une très bonne. Donc, finalement, ça fait une petite moyenne.
Et ça fait quoi, 10 ?
Ça fait 10,5.
Oh, sévère, hein, il est sévère. Mais enfin, c'est bien.
Avec la note que j'aurai en maths, ça ira.
C'est toujours comme ça. On peut connaître cette fausse citation, Jacques Jouet. Qu'est-ce que vous aviez imaginé, vous ?
Alors, cette citation était la suivante. « Tout se passe comme si la prédilection de tout un chacun pour les plaintes et les grincements de dents n'était qu'un banc public sans dossier auquel manquerait aussi le plateau.
» C'est pas si éloigné de ce qu'a trouvé Patrick Beignet. Bon, ben, bravo à tous les deux. On passe au second candidat, Patrice Caumont, qui avait un sujet assez costaud, hein, copieux même. On peut le rappeler, Dominique Muller ?
Oui, je rappelle aussi que nous nous adressons à un candidat costaud.
C'est vrai, c'est vrai.
Tartelette, synecdoque, affirme Kierkegaard en introduction à La gueule du loup, essai inachevé sur l'œuvre de Schopenhauer. En vous fondant sur cette interprétation critique, vous discuterez la pertinence de l'insulte en tant que début de la civilisation.
Voilà. Alors les blablabla, blablabla, vous avez remplacé Patrice Caumont par des mots. On peut écouter la citation ?
Oui, j'ai retrouvé la citation. L'existence de l'homme, c'est pas de la tarte, même si la pâte pourrait être le corps et les fruits l'âme. Par contre, la tartelette est la juste métonymie de l'angoisse existentielle. Tôt ou tard, elle se brise et l'on s'en prend plein la chemise. Mais nul ne sait quand. Si la poire est essentielle au désespoir, c'est la pomme, la synecdote du péché originel. Traiter l'autre de pauvre pomme, c'est remonter à la primale erreur de l'homme.
Vous voyez, ça commence costaud. Ouais.
Je ne sais pas s'il va pouvoir garder ce niveau-là tout le temps, hein, pendant toute la dissertation, on va voir. Alors vous vous lancez bravement, Patrice Courant.
Oui, ce texte fait référence effectivement à un texte de Kierkegaard sur Schopenhauer, mais le plus intéressant chez Kierkegaard, que je me permets de rappeler en entrée, c'est qu'il a été fasciné toute sa vie parce que son prénom, c'était Søren Abbe Kierkegaard, donc S.A. Kierkegaard, ce qu'il ne faut jamais traduire par Son Altesse Kierkegaard, mais Søren Abbe Kierkegaard. Et Arthur Schopenhauer, c'était AS, et vraiment on peut se demander aujourd'hui comment ça a pu intéresser Kierkegaard, mais il était assez spécial. Fermons cette parenthèse. Ouais. Le jeune Kierkegaard, depuis sa petite enfance, a subi toutes sortes d'insultes et différents sobriquets qui allaient de fils de pasteur à petit Danois pasteurisé, de Kierkegaard-côte à Kierkegaard-barrière, et voir petit Danois de coco. Søren Kierkegaard a entendu tout au long de sa vie, mais vraiment tout au long de sa vie, « Søren, ne vois-tu rien venir ?» Comme disait son instituteur, Kierkegaard, vous êtes un peu désespérant. L'insulte est un signe expressif, plus qu'indicatif. L'insulte porte en elle-même l'affect et vise l'affect. Comme disait Arletty, désespoir, est-ce que j'ai une tête de désespoir ? Et pourtant, Søren s'est tout le temps fait traiter de désespoir. Il n'y a pas de désespoir sans poire, comme il n'y a pas de discorde sans pomme. Espèce de poire, reste sans espoir. Sans poire, plus de désespoir. Du pâté de lapin sans pain, c'est du pâté de lait. L'espoir sans poire, c'est une laisse dont l'angoisse donne un coup de collier. L'insulte doit être parlante, elle doit être descriptive, elle doit blesser. Ainsi, pour Kant, traiter son impératif catégorique d'élixir parégorique, on ne sait pas où cela nous mène. Il y a peu de conscients dans la salle.
Oui, oui, oui.
L'insulte fait partie du logos, du discours premier fondateur de la civilisation. Vaïdo et Patatoï, disait non à Héraclite. Et toi, télé et non, délé, répondit l'autre. L'insulte a évolué du va donc, espèce de sophiste, insulte très platonicienne, à espèce de chien pour les cyniques, ou d'Aristote tête de linotte à tremblotant du cogito, ou encore de pauvre bacchante à Hegel de Ré, ou à Etictoc et Spinoza, jusqu'au plus contemporain, Althusser à quoi ? Althusser à rien. C'est Heidegger qui a repris le côté civilisateur de l'insulte en le ramenant au logos, là où Freud, dans Héros et civilisation, l'avait ramené au désir. C'est donc dans ce « va donc et banane » que se redéfinit l'hégelianisme, et ce « Dasein de base » reste aussi une des insultes les plus signifiantes. C'est pas le tout, la cloche a sonné, j'ai pas pu finir.
« L'élève comment est brillant. D'ailleurs, vous l'avez en cours toute l'année, Dominique Muller.
Ce n'est donc pas la première fois que je corrige un de ses devoirs.
Ouais, alors.
Et je sais toujours la même histoire. C'est, il n'est pas brillant, il est éblouissant. C'est-à-dire que je n'y vois plus rien. Je suis absolument aveuglée par un déluge de références, de citations. Il a tout lu, la chair est triste, il a lu tous les livres. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Donc à chaque fois, je lui mets une extrêmement bonne note, tout en étant à peu près sûre de n'avoir pas tout compris, mais je ne peux pas le lui dire, n'est-ce pas ? Donc, je lui mets, d'ailleurs, je pense que ça le mérite.
Oui, alors un bon gros 18 ?
Oh non, n'exagérons rien.
Ah, bon.
16,5.
Oh, c'est bien, c'est très très bien. Oui, content, oui. Patrice, comment ?
Oui, parce que j'étais pris par le temps. Oui.
Oui. Quelle était la citation, Dominique Muller ?
Elle était peut-être un peu plus sobre que la sienne, mais pas si lointaine. Si la tarte dans la gueule est une métonymie de la violence, une tartelette dans la frimousse, on est la figure cathartique. C'est par la synecdoque que se nuance le rapport entre la chose et la pensée, affirme Kierkegaard en introduction à La gueule du loup, essai inachevé sur l'œuvre de Schopenhauer, etc.
Bravo à tous les deux. Les papous en public au Quartz de Brest pour Longueur d'onde. C'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart, équipe technique et de réalisation Pierre Mine, Franck Lilin, Olivier Berotte, Olivier Leroux, Sébastien Huel, chargé de production Rémi Gouriou. Rendez-vous dimanche prochain à 12h45 pour la deuxième partie de cette émission avec le jeu des bourrimés, parler, chanter. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué du côté de chez Audiard ? Une publipapoucité sur un grand homme natif de Brest et le roman interactif « Naufragé, pas si solitaire ». Les papous à Brest, à podcaster pendant un an, à réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr où vous pouvez déposer vos remarques, questions, suggestions, rubrique commentaires des papous du jour. Et puis promenez-vous dans nos pages vie du club et les livres des papous pour tout découvrir ou presque des activités des membres de notre petite bande quand ils ne jouent pas aux papous. Leurs spectacles, leurs ateliers d'écriture, leurs expos et puis leurs livres parus cette année, les livres en solo et le nouveau recueil collectif pour nos 30 ans, 36 facéties pour des papous dans la tête, avec des textes écrits pour les papous par Dominique Muller, Patrice Caumont, Eva Almassi, Jacques Vallée, Odile Conseil, Lucas Fournier, Gérard Mordilla et les illustrations de Ricardo Mosner. Une coédition Carnet Nord France Culture. Au revoir, à dimanche prochain pour la suite des papous au Quartz de Brest en rediffusion. Passez un très bel après-midi sur France Culture à l'écoute des programmes d'été. Tchac,